Salut à toutes et à tous, bienvenue dans Sortie de veille, le podcast hebdomadaire de Mac Génération. Tim Cook sera sur le départ. Après 15 ans à la tête d'Apple, le successeur de Steve Jobs pourrait laisser sa place l'année prochaine. C'est en tout cas ce qu'affirme le Financial Times sur la foi de plusieurs sources. Un départ l'année prochaine est-il réaliste et même souhaitable? On va en discuter avec Christophe. Dans cette émission également, on va parler du Mac Pro, qui est devenu le vilain petit canard, du standard Matter en domotique qui bénéficie d'une grosse mise à jour, et de l'iPhone Pocket, cet accessoire insolite qui fait débat. Nous sommes le samedi 22 novembre, voici les infos de la semaine qu'il ne fallait pas manquer. C'est incroyable mais vrai, on peut maintenant faire un airdrop entre l'iPhone et Android. Google a lancé cette fonctionnalité par surprise cette semaine sur le Pixel 10. Salut Christophe, est-ce que tu vas bien ?
Bonjour Stéphane, ça va très bien et toi ?
Ça va bien, ouais. Est-ce que tu es pressé de tester cette fonctionnalité de airdrop entre Android et iPhone ?
Alors, il m'est arrivé de conseiller des Pixels à certaines personnes qui ne voulaient pas d'iPhone, mais j'en ai pas dans mon proche entourage. Ceci dit, très franchement, quand j'ai lu cette actualité et qu'on a appris dans la foulée que, a priori, Google avait fait ça dans son coin, franchement, de leur part, c'est un vrai coup de maître parce que Apple maintenant est dans une situation où elle est bien embêtée. En fait, ils ont deux options. Soit ils gardent leur politique un peu dure comme ils l'ont fait avec The Beeper en disant non, on veut pas d'interopérabilité, ça reste un truc entre nous, vous exploitez une faille de sécurité et on ferme ça au plus vite. Donc ça c'est, on va dire, l'Apple telle qu'on la connaît. Mais en même temps, il y a le contexte. Alors, on sait que l'Union européenne rêve qu'il y ait plus d'interopérabilité autour d'AirDrop. Alors en coupant AirDrop, il se mettrait à mal, notamment avec l'Union européenne. S'il la tolère, il pourrait toujours avoir beau dire, vous savez, vous voyez, on n'est pas si fermé que ça. Google permet d'envoyer des images ou des documents via AirDrop. Donc je suis assez curieux de voir comment la situation va évoluer parce que c'est assez passionnant.
En tout cas, moi j'ai pu tester parce que j'ai un Pixel 10 et un iPhone et ça fonctionne très bien. Il faut juste mettre AirDrop en mode tout le monde. Et l'iPhone apparaît effectivement dans le menu du Pixel. Et puis, c'est pas réservé à l'iPhone, ça marche aussi sur iPad et sur Mac. Et dans les deux sens, on peut aussi bien envoyer que recevoir. Je sais que tu es un grand amateur de foot, je passe un peu du coq à l'âne, mais est-ce que tu vas t'acheter un Vision Pro pour voir le docu sur le Real Madrid ?
Parce que pendant le Black Friday, les Vision Pro vont être vendus avec 95% de réduction et une iPhone Pocket offert.
Ah, ça serait bien.
non, mais moi, je constate juste une chose, c'est que Eddie Q, il vit sa meilleure vie de pré-retraité.
Ah, oui.
Et on peut être vraiment tous un petit peu jaloux de sa place. Déjà, il a un très bon poste au sein d'Apple. Puis, manifestement, son truc, c'est la télé, il aime bien la regarder. Alors, qu'est-ce qu'il a fait ces dernières années? Tiens, je vais me faire mon petit service de streaming rien que pour moi. Donc, il a fait Apple TV+. Enfin, maintenant qu'il faut appeler Apple TV. Il aime le foot. Alors, il a été voir Tim Cook et a dit, ça serait pas mal, on va se lancer, on va acheter les droits de la MLS. On sait que, d'ailleurs, je crois qu'il est au conseil d'administration de Ferrari, donc
ouais,
il aime la F1.
Ouais, il est un fan de sport aussi. Hein, ouais.
Voilà, donc il a racheté les droits. Donc, en plus, malgré tout, il dépense pas mal d'argent. Bon, c'est pas forcément des divisions qui sont rentables. Bref, il s'amuse bien avec le portefeuille d'Apple. Alors, il a juste un petit regret, c'est que Tim Cook, il n'ouvre pas assez le porte-monnaie. On sait qu'il aurait rêvé d'acheter les droits de la Ligue des Champions cette semaine. Mais là, quand il est venu avec en disant qu'il faudrait faire, il faudrait verser quelques centaines de millions de dollars, Tim Cook lui a dit « No way, tant que je suis là, c'est pas possible ».
En parlant de Tim Cook, on va parler donc du premier sujet de la semaine. C'est le départ de Tim Cook, qui se rapprocherait à grands pas. Selon le Financial Times, Tim Cook pourrait en effet céder son poste de CEO dès l'année prochaine, en 2026. Alors, il n'a jamais caché qu'il y avait un plan pour sa succession. Et il avait d'ailleurs dit lui-même qu'il ne se voyait pas à la tête d'Apple jusqu'à 70 ans. Il en a 65 actuellement, donc il y a encore un peu de marge. Mais les choses semblent se préparer en coulisses. D'ailleurs, cette année, Tim Cook a dépassé le record de longévité de Steve Jobs, hein, en étant le grand patron pendant plus de 14 ans. Alors, est-ce qu'un départ de Cook l'année prochaine est réaliste? Et est-ce que c'est souhaitable d'ailleurs?
Y a-t-il un âge légal de départ à la retraite aux États-Unis, comme chez nous? Non, mais alors ce qui est marrant, c'est qu'on avait évoqué le scénario d'un départ en 2026 sur le podcast, mais sans trop y croire en même temps. En fait, on avait remarqué que Arthur Levinson, qui est à l'heure actuelle chairman d'Apple, donc qui occupe ce poste central au conseil d'administration. Donc je crois qu'il a dépassé l'âge des 75 ans, ce qui est la date limite normalement pour ce poste. Donc il y a une place à prendre au conseil d'administration l'année prochaine. Alors on avait évoqué, il y a quelques mois de ça, trois hypothèses qui restent toujours valables. Hein. C'est-à-dire que Apple nomme une autre personne du conseil d'administration ou une personne extérieure à ce poste, ce qui est une possibilité. Il y a la possibilité que Tim Cook cumule les deux fonctions, mais ça se fait, mais ça ferait quand même beaucoup. Enfin, je pense que déjà, en tant que CEO d'Apple, il ne s'ennuie pas. Mmh. Et souvent, quand ces personnes cumulent ces deux fonctions, ça marche souvent quand il s'agit d'un cofondateur, ce qui n'est pas le cas pour Tim Cook. Et soit, et donc on avait émis cette hypothèse-là, c'est que Tim Cook saute sur l'occasion, quitte son poste de CEO et devienne chairman du conseil d'administration d'Apple. Ben, c'est une sorte de pré-retraite en quelque sorte, donc il reste un pied dans l'entreprise, mais on va dire un rythme qui est quand même autrement plus relax que celui de CEO d'Apple. Alors, ce qui est étonnant, c'est que jusqu'à présent, quand on évoquait le départ de Tim Cook, c'était quand même quelque chose d'assez lointain. On en parlait, oui, il va quitter ça, il va quitter son poste durant la seconde partie de la décennie. Et puis donc, il y a eu en fin de semaine dernière, cette bombe du Financial Times. Alors moi, je pense qu'il y a deux choses qu'il faut noter. Alors il y en a qui ont parlé d'un ballon d'essai. Alors ça, je comprends pas. Je trouve ça même un peu stupide comme raisonnement, parce que qu'est-ce que dire, tiens, on va lancer l'idée que Tim Cook pourrait partir d'Apple.
Enfin, ouais, je veux dire, ça, on s'y attend.
Ouais, voilà, on il va partir. Et puis, si c'était vraiment qu'un ballon d'essai, maintenant, ça revient presque à l'affaiblir. Imaginons que son plan est de quitter Apple dans 3-4 ans. Il va traîner ça comme un boulet. Et puis, de toute façon, tout laisse à penser que c'était un service sur commande, cette histoire. Parce qu'il n'y a qu'à voir la date de publication. Publier une telle histoire dans la nuit de vendredi à samedi, il n'y a pas plus mort comme moment dans la semaine. C'est vraiment l'histoire de passer un message, de le laisser infuser. Comme ça, il y a un week-end derrière, et puis on espère que Trump, entre-temps, fait une annonce tonitruante pour que ça passe un petit peu à l'as et que la séance en bourse lundi se passe sans problème. Donc, enfin, vraiment, moi, je crois vraiment à ce scénario-là. Et puis, il y a quelque chose qu'on dit assez peu, enfin, moi, personnellement, que je pense, c'est que patron d'Apple, c'est quand même devenu, pardonnez-moi l'expression, un métier de chien. C'est très, très bien payé, attention, il n'y a pas de souci, hein. Mais j'en rigolais avec des lecteurs, il y a quand même tout l'aspect géopolitique qui doit quand même être assez usant. Il faut scoltiner Trump, il y a des histoires en Europe qui reviennent sans cesse, il y a la Chine, enfin c'est une vraie machine à laver. Et mine de rien, Tim Cook, il fait ce boulot depuis 15 ans et je pense que son boulot est chaque année plus compliqué, même si je ne doute pas qu'il est très bien entouré. Mais je regardais l'autre jour, enfin on a vu cette semaine Tim Cook être invité à la Maison Blanche pour dîner avec le prince héritier d'Arabie Saoudite. Je suis pas sûr que ça soit son grand truc à Tim Cook. Je suis pas sûr qu'il partage beaucoup d'idées avec cette personne. À la fin, peut-être que tout simplement il en a ras la casquette. Et puis, j'essaie humblement de mettre à sa place. Depuis 2-3 ans qu'il voit toute sa garde rapprochée partir à la retraite. On l'a vu encore avec Jeff Williams qui a quitté officiellement Apple en fin de semaine dernière. Mm-hmm. Je pense qu'à un moment donné, il doit se dire Mon temps est passé, ouais. il est temps de passer à autre chose. Et puis, il a l'opportunité de partir maintenant. C'est-à-dire, l'année prochaine, c'est les 50 ans d'Apple. Il peut partir en pleine gloire. Je veux dire, l'iPhone est à son sommet. Tout laisse à penser que ce sera en termes de chiffre d'affaires et de nouveaux produits, une année exceptionnelle. Enfin, c'est franchement le bon moment. On parle beaucoup depuis un an ou deux des difficultés, par exemple, d'Apple dans le domaine de l'intelligence artificielle. Alors, c'est des difficultés. Alors, certains disent qu'on en est un peu sévère, mais ces difficultés d'aujourd'hui, c'est des problèmes dans 3-4 ans. Donc, enfin, moi, je serais lui, autant y aller, on va dire, autant sortir par la grande porte en 2026 et laisser son successeur traiter ses problèmes.
On continue dans les choses qui n'ont plus trop d'avenir avec le Mac Pro. On en parlait la semaine dernière à l'occasion du 5e anniversaire des Mac Apple Silicon. Le Mac Pro est le Mac qui a le moins bien géré ce virage. Mark Gurman a confirmé ce qui sautait aux yeux. Apple a largement mis de côté cette grande tour. Le Mac Pro n'a jamais été mis à jour depuis son changement d'architecture en 2023. Il doit donc se contenter d'une puce M2 Ultra, quand le Mac Studio a maintenant une M3 Ultra. Alors, il n'est pas forcément question d'abandon pour l'instant, mais on voit bien que ce n'est pas la priorité d'Apple. Le Mac Pro est devenu le vilain petit canard, en quelque sorte. Est-ce qu'il y a encore une chance qu'il se transforme en beau cygne ?
C'est poétique. J'ai une opinion très impopulaire à son sujet, mais que fait encore cette machine au catalogue d'Apple ? Alors, j'ai rien contre le Mac Pro, au contraire, c'est une machine que j'ai toujours trouvée très sympathique et qui fait un peu rêver. Mais le Mac Pro, c'est une mort sans fin. Ça fait depuis le début des années 2010 que ce sujet revient sur la table. Mais comment ça se fait qu'Apple ne met pas à jour cette machine ? Ça fait un an, ça fait deux ans, ça fait trois ans. C'était déjà le cas, hein, il ne faut pas l'oublier, au temps de l'architecture Intel. Hein. Alors, il y avait eu l'épisode du Mac Pro poubelle, et puis après, vraiment, la machine a été délaissée pendant de nombreuses années. Les professionnels n'étaient pas contents. Alors, Apple était dans une mauvaise passe, justement, avec sa clientèle historique, et elle avait mis, je pense, un peu contre son gré, cette machine sur les rails. À la fin, il faut dire la vérité, c'est une machine qui ne se vend pas. Alors, c'est vrai qu'elle fait beau dans un catalogue, mais, et surtout depuis le passage à l'architecture ARM, c'est une machine qui fait de moins en moins rêver. Et je crois qu'il faut lire la situation telle qu'elle est. Le Mac Pro en 2025, c'est le Mac Studio. Voilà, et j'ai envie de dire, c'est très bien comme ça. Donc, je suis désolé, j'y crois pas trop, c'est un marché qui est trop petit pour Apple, et à un moment donné, je pense qu'il faut passer à autre chose. Et d'ailleurs, on voit que pour l'année prochaine, non, ce sera déjà le cas là, mais macOS 26.2 gérera beaucoup encore mieux avec le Thunderbolt 5, le cluster entre différentes machines, et ça risque d'être très intéressant, notamment dans le domaine de l'intelligence artificielle. Donc, on a hâte que le Mac Studio soit mis à jour en 2025, ou le Mac Mini, qu'on puisse faire des clusters de machines en exploitant ces technologies-là.
Mmh. Oui, parce qu'en fait, la raison d'être du Mac Pro, normalement, c'est son extensibilité, la possibilité d'ajouter des composants, mais en fait, depuis l'architecture Apple Silicon, ça s'est vachement réduit. Tu peux plus ajouter de RAM.
Oui, et la seule raison d'être, ça pourrait être à la limite le GPU. Mais là, évidemment, avec l'architecture Apple Silicon, c'est plus compliqué. Oui, il faudrait, entre guillemets, une sorte d'alliance entre Apple et Nvidia. Bref, j'ai un peu de mal à y croire. Et c'est vrai que déjà, c'est un canard boiteux au temps de l'architecture x86. Mais bon, le passage à l'architecture ARM fait qu'elle a quand même perdu une grande partie de son intérêt.
On va maintenant parler de domotique. Vous savez, les objets connectés qui marchent une fois sur deux, et même plus du tout quand les fabricants mettent la clé sous la porte. Eh bien, depuis quelques années, Instandard cherche justement à simplifier et à fiabiliser l'utilisation des lumières, prises, aspirateurs et autres serrures connectées. Le standard Matter a reçu une grosse mise à jour cette semaine, avec la prise en charge des caméras de surveillance. C'était la principale catégorie manquante jusque-là. Ça veut dire que si vous achetez une caméra compatible Matter, vous allez pouvoir l'intégrer dans l'application Maison d'Apple, mais aussi dans Google Home, Amazon Alexa, Samsung Smart Things ou encore Home Assistant. Et en plus, ça fonctionne en local, donc même si le fabricant coupe ses serveurs, la vidéo fonctionnera toujours. Le standard Matter a 3 ans maintenant. Est-ce qu'il a simplifié la domotique ? Parce que c'était son principal objectif.
Tu sais que Nicolas, le grand spécialiste domotique de la boîte, est désespéré concernant Matter, sur deux points très précisément. Le premier, il le voit à chaque fois dans les réactions, tout le monde confond Matter et Thread, ça le rend... il est triste.
Voilà. On peut rappeler, voilà, Matter, c'est le standard logiciel qui permet l'intégration, voilà, comme je l'ai dit, des objets connectés dans différentes plateformes, dans différentes applications. Et Thread, c'est le protocole matériel sans fil qui fait communiquer les objets connectés entre eux, quoi.
Et son deuxième grand regret, c'est qu'Apple est toujours à la traîne pour prendre en charge les dernières spécifications de Matter. Bon, alors pour répondre à ta question, j'ai envie de dire que quand même Matter a apporté de la sécurité. On peut acheter un produit domotique un peu plus sereinement. On se dit bon, ben maintenant je suis entre guillemets, enfin j'utilise HomeKit, mais si demain je passe sur Home Assistant ou plutôt sous le giron de Google ou d'Amazon, je pourrais toujours utiliser mes produits et ça c'est quand même un vrai plus. Il y a un autre point. Comme tu dis, enfin, il reste quand même un gros problème avec la domotique, comme tu le disais en intro, c'est que malgré tout, enfin, il y a toujours cette histoire, voilà, il y a des accessoires qui fonctionnent, on va dire, uniquement en local, d'autres qui fonctionnent en ligne, et du jour au lendemain, une boîte décide de couper tel ou tel serveur, et on se retrouve avec un accessoire qui ne fonctionne plus, ou du moins pas plus à 100% de ses possibilités. Enfin, moi, je prends un exemple. J'ai un aspirateur en ligne qui se base sur une intelligence artificielle pour cartographier les pièces et surtout pour voir pour reconnaître les différents éléments. Bah, ça marche plutôt pas mal, mais voilà, le jour où les serveurs sont coupés, ça marchera moins bien. Il y a malgré tout la domotique. Moi, j'ai toujours l'impression. Alors, nous, on est dedans, donc c'est assez facile, mais
enfin, j'ai toujours l'impression. Ça reste compliqué
c'est vrai,
parfois.
Non, mais tu vois, oui, comme tu disais, enfin, le fait que des gens confondent Matter et Thread, ça veut quand même dire quelque chose. Mm. Mais malgré tout, on est entre initiés, on est entre geeks, c'est-à-dire qu'on peut, on arrive quand même à nos fins. Mais j'ai quand même l'impression que pour le commun des mortels, ça reste quelque chose de très compliqué. Et c'est pour ça que je suis très curieux de voir. Ce que va donner, enfin moi j'appelle ça le HomePod, donc cette tablette d'Apple qui serait en grande partie dédiée à la domotique. Est-ce qu'Apple va réussir à simplifier ça? C'est entre guillemets c'est ma grande curiosité pour l'année prochaine.
En tout cas, ça ne devrait pas être pire qu'avec Siri, hein, du moment qu'on peut contrôler ses lampes avec un écran, je pense que ça sera mieux. Ouais. On termine le tour de l'actu avec l'iPhone Pocket, cette poche en tissu conçue en collaboration avec la maison de luxe Issey Miyake est sûrement le produit Apple qui aura eu la carrière commerciale la plus courte. Elle a été mise en vente le vendredi 14 novembre et le lundi 17, elle était déjà en rupture de stock partout. Elle coûtait pourtant 160€ dans sa version courte et 250€ dans sa version longue. Et le design est original, on va dire ça comme ça. Est-ce que, Christophe, ça te surprend que ce produit se soit vendu aussi vite?
Bon, tout d'abord, toi qui as testé l'iPhone Pocket, est-ce que ce produit a changé ta vie?
Alors, il n'a pas changé ma vie. J'aurais bien aimé qu'il la change, mais non. En fait, je crois que le problème, c'est que je l'ai testé en version courte. Et je pense que la version longue est plus utile au quotidien, en tout cas pour moi. Parce que la version courte, c'est comme un mini sac. Extensible et j'ai pas réussi à l'utiliser au quotidien en fait parce que sinon il faudrait que je la porte au bras mais c'est pas très naturel ou alors accrocher à un sac mais j'utilise un sac à dos puis même j'ai pas forcément envie de laisser pendre comme ça mon iPhone à mon sac. Donc la version longue, je me suis dit que la version longue en fait tu la portes comme une bandoulière et ça à la limite à la maison, ça pourrait être utile. Et j'ai notamment pensé, j'ai vu des photos là-dessus, en fait, pas pour l'iPhone, mais pour la batterie du Vision Pro. Parce que je me suis déjà retrouvé, alors là, vous entrez dans mon intimité, mais en pyjama, j'utilise le Vision Pro. Et le problème, c'est que je marche un peu dans la maison. Et ben, mon pyjama, il n'a pas de poche. Et donc, je suis obligé de tenir à la main la batterie du Vision Pro. Alors que voilà, si j'avais l'iPhone Pocket, je pourrais mettre la batterie du Vision Pro dans l'iPhone Pocket. Donc j'ai pensé à ça, mais voilà, j'ai la version longue. Donc non, j'ai pas réussi à. Et pourtant, c'est un produit qu'il faut le dire, hein, parce que ça fait évidemment penser à l'iPhone SoC qui était sorti il y a longtemps maintenant, il y a une vingtaine d'années pas l'iPhone SoC, l'iPod SoC qui était sorti pour l'iPod, et c'était un produit très sympa. Mais la qualité est pas du tout la même. Hein. Là, effectivement, c'est fabriqué au Japon dans une maille élaborée, comme le dit Apple et Issey Miyake. Et donc, c'est un produit très ludique, très fun. Mais bon, je comprends les débats qu'il peut y avoir sur le design et le prix. Ouais.
Mais alors, tu vois, autant je suis pas surpris que l'iPhone Pocket soit en rupture de stock. Mais par contre, s'ils avaient été le Vision Pocket, je crois qu'ils auraient eu un petit problème. Ils n'en auraient pas vendu beaucoup. Ceci dit, oui, bon, le produit, il est en rupture de stock. Mais on parlait de quoi, a priori 1000 pièces pour la France, c'est ça, la grandeur de,
ouais,
on parle
plus,
de cette grandeur d'échelle.
On parlait de quelques milliers, tout au plus, ouais.
Ouais, donc voilà. Apple a toujours, ça s'est entretenu, un lien avec le milieu de la mode et le milieu du luxe. Bah, comme c'était déjà le cas avec l'iPod, où il y avait eu quelques collections spéciales qui n'avaient pas forcément fait beaucoup de bruit. On parle également de la boîte qui a vendu une Apple Watch en or. Alors, ça n'a pas été un succès commercial, mais ils en ont quand même vendu quelques milliers au final. Et puis, bon, bah, écoute, Apple fait de temps en temps des choses qu'on n'attend pas. Voilà, récemment, il y avait ce livre sur le design. Voilà. Je ne sais pas pourquoi ils l'ont fait. Ceci dit, ce n'était pas inintéressant. On est très content d'avoir un exemplaire à la rédaction.
Bah, c'était un peu le livre testament de Johnny Ive, hein, quand on voit ça avec le recul. Parce que c'était sorti en 2016, si je me souviens bien. Et Johnny Ive est parti peu de temps après. Donc, c'était un peu un livre sur les travaux de Johnny Ive et de son équipe.
Oui, ouais, effectivement. Je pense que pour eux, ça reste... Enfin, voilà, mais on va dire que c'était presque un travail interne qu'ils ont fait pour eux et qu'ils ont dit tiens, on va le partager. Mais voilà, maintenant, il reste une et seule question, enfin la plus importante finalement de ce podcast. On fait quoi de notre iPhone Pocket ? On la rend à Apple, on la met en vente sur eBay, on la garde précieusement pendant 10 ans et on la revend très cher, on fait un concours auprès des abonnés du Club Hygiène, on fait quoi ?
Bah, c'était la question que je voulais te poser après. Après le podcast, mais bon, tu la poses pendant le podcast. Ben écoute, je sais pas. C'est vrai que sur les sites de petites annonces, là, on en voit quelques-unes. Alors, il y a tous les prix. Hein. Tu vois des vendeurs qui essayent, qui n'ont pas peur, qui mettent plus de 1000 euros d'ores et déjà. D'autres qui mettent à peu près au prix de vente. C'est la question. De toute façon, c'est sûr que c'est un objet collector, parce que voilà, c'est une édition limitée, en plus avec une grande marque. Donc peut-être que ça va gagner en valeur au fil des ans, ça sera sûrement le cas, ouais.
Je suis curieux de voir à partir de quand, si ça se trouve c'est déjà le cas, je vais pas regarder, on aura des clones sur AliExpress.
Ouais, j'ai déjà vu des annonces un peu bizarres sur eBay. En fait, c'était présenté comme des iPhone Pocket, mais c'était vendu moins cher, donc c'est forcément des clones de cette drôle de poche, ouais. Eh bien, merci pour ce retour sur l'actu, Christophe. Je te souhaite un bon week-end.
Bon week-end à tous.
Bon week-end à tous, et puis on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Sortie de Veille. Salut à tous!